Bonjour Laurent Wolf.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez vous, ici à Paris, à deux pas de la gare de Lyon. Un emplacement qu'on peut dire carrément stratégique.
Oui, stratégique parce qu'il me donnait accès à Genève où j'ai travaillé pendant presque 20 ans, sans avoir à prendre le métro, le bus et les autres transports en commun pour arriver à la gare. Je partais de chez moi pour aller à Genève dans les années 90, 2000 jusqu'à 2012. Je partais de chez moi et 3 minutes après, j'étais dans le TGV. Et donc, il y avait le moins d'interruptions possible. Voilà. Donc, je me suis installé ici à cause du fait que je travaillais à Genève à une époque où le télétravail n'était pas encore à la mode.
Ça veut donc dire que ça fait une vingtaine d'années que vous êtes ici dans cet appartement ?
Je suis ici depuis 1996. Avant d'habiter ici, j'habitais dans le Faubourg Saint-Antoine, qui est un quartier dans lequel il y avait à l'époque énormément d'artistes. Je me suis installé là-bas en 1981 et dans un immense local qui faisait 230 mètres carrés. Et puis les circonstances ont fait que j'ai dû quitter ce local et donc je suis resté à peu près dans le même quartier. La gare de Lyon est pas loin du Faubourg Saint-Antoine. Mais surtout, j'ai privilégié les avantages de transport.
Et vous aimez les gares, les quartiers de gare,
j'aime
me
disiez-vous. Oui, alors ça, j'adore les quartiers de gare. Tout le monde n'aime pas les quartiers de gare. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est très minéral. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a beaucoup d'inconvénients. Mais on a la ville à portée de main. Et il se trouve que j'ai épousé une femme qui aime aussi ce genre de quartier agité. C'est une Brésilienne. Et quand on va à Rio, on habite aussi un quartier absolument épouvantable, où il y a des bruits de la rue qui viennent nuit et jour. Et j'aime beaucoup ce quartier à cause de ça. Alors, de temps en temps, il y a des inconvénients. On a un PMU, c'est-à-dire un magasin qui fait des paris hippiques, qui s'est installé en face de chez moi. Pendant un certain temps, il y avait des groupes d'alcooliques éméchés qui faisaient pas mal de bruit. Et puis, on a aussi un parking moto absolument épouvantable qui s'est installé dans cette rue. Mais enfin, bref, c'est des inconvénients du quartier de gare. Les quartiers de gare, c'est une sorte de d'enclave urbaine très, très, très particulière, qui a un parfum très particulier. Moi, j'aime beaucoup cette rue parce qu'il y a à la fois des commerces de bouche pour les voyageurs, il y a à la fois des commerces de bouche pour les gens du quartier, qui ne sont pas les mêmes. Il y a évidemment pas mal de prostitution plus ou moins cachée, des salons de massage. En ce moment, la mode est au salon de massage, des sex shops. Il y a des gens bizarres qui passent. Il y a tous les groupes sociaux qui passent, qui n'est absolument pas le cas dans tous les quartiers de Paris.
Alors, ce qui est intéressant, je vous écoute avidement, Laurent Wolf. J'ai déjà repéré que dans les années 80, vous étiez logé dans un quartier avec beaucoup d'artistes et vous étiez justement peintre à cette époque-là, ça on va y revenir. Vous venez nous décrire ce quartier de gare avec le regard d'un urbaniste sociologue. Eh bien, à la bonne heure, parce que justement, Laurent Wolf, on va pouvoir déployer certains pans de votre vie multiple. Vous êtes donc dessinateur, sociologue, journaliste et critique d'art. C'est comme ça que vous vous présentez
oui,
aujourd'hui.
Absolument.
Voilà, dans cette vie à peu près que nous vous consacrons pendant cette semaine. On va suivre ce parcours. Et on va se rendre compte, c'est ça qui est intéressant, que l'espace est au cœur de votre vie. C'est vraiment une des grandes préoccupations de votre existence. C'est un des points communs qui relie peut-être aussi toutes vos lignes de force, d'une certaine manière. Alors pourquoi l'espace est-il si important ?
Écoutez, ça, c'est des choses qu'on ne sait qu'après coup. Ça, c'est l'avantage et l'inconvénient de vieillir. voilà, j'ai 78 ans, donc j'ai vécu plusieurs vies, dans plusieurs endroits, dans des circonstances très différentes les unes des autres, pendant certaines périodes salarié, de l'université, d'autres périodes artiste, une période assez longue de 20 ans où j'étais peintre, où je ne faisais que ça, une autre période où je suis devenu journaliste, après avoir fait toutes sortes de petits boulots, ce qui est assez rare autour de 50 ans, puis ensuite je suis redevenu artiste, donc j'ai eu des rythmes de vie très différents, apparemment des préoccupations très très différentes, et c'est dans l'après-coup qu'on se rend compte qu'on a toujours été préoccupé par la même chose. Et là actuellement, je fais une série de dessins qui s'appelle Bornes Frontières. Ce sont des dessins qui sont inspirés par les bornes frontières de la région de la Chaux-de-Fonds. la Suisse est un pays bizarre, parce que la Suisse est un pays qui est truffé de bornes. Il y a des bornes absolument partout. Et je me suis souvenu que quand j'étais petit, je me promenais et j'allais à la chasse aux bornes. Là, je devais avoir 10, 12 ans, hein, donc j'adorais découvrir les bornes qu'on trouve à des endroits très bizarres, parce qu'il y a des bornes qui sont des bornes de terrain, il y a des bornes qui sont des bornes communales, il y a des bornes qui sont des bornes cantonales, il y a des bornes qui sont des bornes nationales, en fédérales. Et tout d'un coup, j'ai été réintéressé à la... Donc quand j'étais gamin, hein, j'allais à la chasse aux bornes, et tout d'un coup, à 76, 77 ans, il y a un ou deux ans, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à m'intéresser aux bornes, et j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché des images de bornes, de ces bornes de la région de la Chaux-de-Fonds, et je suis tombé sur un truc absolument extraordinaire, c'est qu'il existe une association qui non seulement rénove les bornes, mais en plus propose des promenades.
De borne en borne.
Ça s'appelle le chemin des bornes, et donc les gens vont de borne en borne, et les bornes sont très très jolies, hein, dans le Jura, les bornes entre la France et la Suisse, entre le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel. Et donc le territoire dans lequel on vit est un territoire qui est complètement balisé, qui est complètement mesuré, qui est complètement géométrisé. Hein. Si vous vous promenez dans la rue, n'importe où dans le monde, il vous faut regarder par terre, vous allez trouver des petites plaques avec ou des clous qui sont plantés dans les trottoirs, ou qui sont, et ces petits clous servent à faire des mesures géodésiques qui sont essentielles à l'organisation de l'espace. Si vous allez dans la campagne, chez nous en Suisse, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais au sommet des montagnes, il y avait toujours des espèces de triangles en fer, des espèces de pyramides. Ces petites pyramides, elles servaient à l'arpenteur à installer sa machine et à prendre des mesures. Et moi, j'ai toujours été fasciné par la mesure du territoire, par l'organisation de l'espace. Et j'ai découvert que finalement, c'était le fil de ma vie, que c'est ça qui m'intéressait, que c'est ça qui m'avait toujours préoccupé, et que j'avais zigzagué dans des modes d'existence incroyablement différents les uns des autres, et que j'étais toujours fasciné par la mesure du territoire.
Et du corps aussi, qui se meut dans l'espace.
Bien sûr, parce que si vous voulez aller de borne en borne, les bornes vont pas d'elles-mêmes se relier entre elles. Qu'est-ce qui relie les bornes entre elles? Qu'est-ce qui relie les points géodésiques qui sont au sol? Enfin, les bornes définissent un territoire, et ce sont les hommes qui arpentent ce territoire.
Ce qui est assez fascinant aussi, Laurent Wolff, c'est que dans votre appartement, on se rend compte qu'il y a aussi plusieurs espaces dans l'espace. Il est articulé de telle manière qu'il y a plusieurs territoires. Là, on se trouve dans votre bureau, atelier. Enfin, il a déjà plusieurs qualités, cet endroit.
Alors, vous savez, il y a des gens qui adorent rénover leur appartement. J'ai horreur de ça. J'ai épousé une femme qui a horreur de ça. Quand mes enfants, qui sont des grands-enfants, ils sont adultes, viennent ici, ils ont un peu honte de parce qu'on a un appartement qui est vraiment pas à la hauteur de ce que doit être un appartement d'artiste moderne, tout blanc, aéré, etc. Et dans cet appartement, il y a différents lieux, effectivement. Bon, là, on est dans mon lieu de travail. J'ai une énorme table dans ce lieu de travail. Elle est tellement grande que j'ai pu organiser deux côtés. Il y a un côté qui est le côté où je dessine, et l'autre côté, qui est le côté où j'écris. Cette table, elle est énorme, et j'ai hérité de cette table d'un écrivain suisse bien connu, qui s'appelle Paul Nison, il y a une quarantaine d'années. Paul Nison a dû déménager d'un appartement où cette table tenait. C'est une table de repasseuse du 19e siècle.
Très large.
Elle est énorme, elle fait 2 mètres sur 1 mètre 80 à peu près, ou peut-être même plus. Et sur cette table sédimentent des objets qui sont là depuis que j'habite ici. Ça fait maintenant bientôt 30 ans. Puis au mur, il y a des bibliothèques, il y a énormément de livres, mais on ne peut plus accéder aux livres parce que devant les livres, il y a des dessins qui sont venus s'installer. C'est-à-dire qu'ici, l'espace sédimente comme dans la nature. Et si on veut chercher mon passé, il faut commencer à fouiller exactement comme on fouillerait dans une fouille archéologique. Donc ici, dans cette pièce, il y a des centaines et des centaines de dessins qui sont stockés dans des cartons. Il y a des dessins qui sont affichés au mur.
Il y a des Leporello, ça c'est aussi une chose importante.
Il y a des Leporello qui occupent beaucoup d'espace parce qu'ils sont...
Ils se déploient.
C'est des dessins qui se déploient dans l'espace, un peu comme des sculptures. Et voilà, donc ça, c'est ma grotte. Et puis, il y a d'autres endroits. J'ai une chambre à coucher où je fais les très grands dessins. Il y a un long couloir, c'est un espace un peu biscornu. C'est un lotissement post-haussmannien qui a été construit en même temps que la gare de Lyon en 1900. Cet immeuble a été achevé en 1902. Donc, il y a des espaces de vie, il y a une espèce d'urbanisme, si vous voulez, local, qui correspond à l'organisation de ma vie quotidienne.
Bon, en tout cas, je note que cet espace qui est dédié à l'écriture, qui est contigu au dessin, voilà, ça marche main dans la main, hein, ces deux disciplines. On va y revenir sans doute plus tard. Ben, c'était peut-être pas tout de suite l'évidence.
Non, alors on peut dire que c'était pas l'évidence tout de suite parce que, en réalité, je suis devenu peintre par défaut d'écriture. Donc, j'arrivais pas à écrire. J'étais comme beaucoup de gens qui décident de devenir écrivain parce que c'est une posture assez intéressante socialement. On se dit ça va être formidable. Je vais écrire un livre ou je vais écrire des poèmes ou je vais écrire même un livre de théorie, peu importe ce qu'on écrit, et qui se mettent devant leur page blanche. Et puis la page reste épouvantablement blanche, il ne se passe rien. Alors donc on va se promener, on va dire « Ah mais je vais avoir une idée, ça va être génial ». On en revient devant sa page blanche, elle reste blanche. Il se trouve que ça m'est arrivé en 1970, j'étais devant ma page blanche et au lieu d'écrire, parce que j'aime pas souffrir, je me suis mis à dessiner. Et c'est comme ça que je suis devenu peintre.
Alors ça, ce sera l'occasion de s'en approcher de manière plus concentrée lors de notre deuxième épisode, c'est-à-dire demain. Mais là, j'aimerais bien vous emmener dans un endroit que vous connaissez bien, dont vous venez de nous parler, c'est la Chaux-de-Fonds. C'est là que vous êtes né en 1944, dans une période, je pense, très particulière. Cette Chaux-de-Fonds dont vous dites, Laurent Wolff, que vous vous réjouissez de la quitter, cette Chaux-de-Fonds, non pas les gens, vous aimez beaucoup les chaux-de-fonniers, mais le froid, les montagnes, ça vous intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, vous allez quitter la Chaux-de-Fonds pour Genève, puis ensuite Paris, comme on le verra. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un moment dans cette enfance chaux-de-fonnière. Quel genre d'enfant êtes-vous? Qui sont vos parents? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir, mémoire marquante de la ville, de la culture, des gens, que sais-je?
Alors moi, je suis né en octobre 1944. Et en octobre 1944, je le rappelle quand même à ceux qui auraient pu l'oublier, la guerre n'était pas finie. Un, la guerre n'était pas finie. Deux, on ne savait pas encore l'étendue du désastre qu'avaient provoqué les nazis. On savait qu'ils avaient provoqué une guerre mondiale, ça bien sûr, c'est un désastre. Mais ils ont provoqué un autre désastre, c'est le désastre qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Et ce désastre, ça n'est pas simplement le fait que les nazis voulaient éradiquer les juifs de la planète, mais c'est aussi une méthodologie, hein, c'est l'industrie appliquée à la mort. Et je suis donc né à un moment donné où cette industrie s'exerçait à plein. Mes parents m'ont donné trois noms. Ils m'ont donné le nom de Laurent, parce que c'était des amateurs d'art. C'était pas parce qu'il y a un saint qui s'appelle Saint-Laurent, mais parce que il y a un homme qui s'appelait Laurent le Magnifique. Le grand mécène de l'art, un Médicis, florentin. Et je suis né sous le signe de l'art florentin, de la Renaissance. On m'a donné un deuxième nom, qui est le nom de mon grand-père, qui venait de mourir, qui s'appelait Jules. Alors le nom de mon grand-père a eu moins d'influence sur ma vie, mais il en a eu quand même à travers les différents membres de ma famille. Mon grand-père Jules était un émigré venu de France au moment... Enfin, je ne sais pas si c'est lui ou ses parents qui sont venus, je ne connais pas bien l'histoire de ma famille. Ce que je sais, c'est qu'il était juif alsacien et qu'en 1870, quand les Allemands ont annexé l'Alsace, beaucoup de juifs ont quitté l'Alsace, certains pour l'Afrique du Nord et d'autres, et beaucoup, ont quitté l'Alsace pour la Suisse. Et notamment pour la Chaux-de-Fonds, ville qui vendait la citoyenneté à ces gens qui pouvaient la payer, parce que c'était des régions extrêmement pauvres. Et donc ce Jules est venu à la Chaux-de-Fonds, et ce Jules était un homme de gauche. Hein, il était membre de la Deuxième Internationale, et donc c'est une ambiance. Et puis j'ai un troisième nom, prénom, qui est Olivier. Parce qu'en octobre 1944, on savait que les Allemands avaient perdu la guerre, mais qu'elle n'était pas finie, donc le massacre continuait. Mais disons, la paix était annoncée. Donc j'étais le rameau d'Olivier qui vient annoncer la fin du conflit. Donc je suis né dans cette famille chaux-de-fonnière.
Cultivée,
très citoyenne. Voilà, et j'ai une enfance tout à fait confortable, tout à fait heureuse, mais tout à fait bizarre. Alors ça, je peux en dire plus sur cette enfance bizarre.
Ah oui,
parce que c'était quand même... Mon père était un drôle de type. Hein. Mon père était chirurgien, hein, il s'était formé à Berne. Et ce père... mais revenons peut-être à la grand-mère. Parce que le père ne se comprend pas sans la grand-mère. Donc la grand-mère, qui était la femme de Jules, était elle aussi une personnalité de gauche, mais surtout c'était une féministe. Mais attention, hein, pas une féministe de nos jours, une féministe d'avant la guerre de 14-18. Hein. Ma grand-mère s'est donc battue pour le suffrage féminin, et Jules et Mathilde, elle s'appelait Mathilde, pensaient à l'harmonie universelle, et pensaient que la langue était ce qui séparait les hommes, et ils ont participé à un mouvement qui a eu beaucoup d'importance pour cette génération, qui était le mouvement espérantiste, hein, la langue universelle, l'espéranto. Et cette grand-mère m'énervait un peu, parce que bon, les grand-mères, ben, elle était un peu sévère, un peu dure avec ses petits-enfants. Mais enfin bref, un jour, il y a une quarantaine d'années, je me promenais dans Paris et je vois une boutique avec marqué « Fédération mondiale de l'espéranto ». Je rentre. Et je dis, ah, l'espéranto, ça existe encore. Il y avait une dame qui n'était pas très vieille, hein. J'étais surpris parce qu'elle était jeune. Elle me dit, si, l'espéranto existe, ça vous intéresse? Je lui dis, oh, surtout pas, ça m'intéresse pas. Ma grand-mère m'obligeait à apprendre l'espéranto. Ah bon, vous avez beaucoup souffert? Ah oui, alors vraiment, on passait des heures à apprendre l'espéranto, on détestait ça. Et elle était de la Chaux-de-Fonds. Et la dame me dit, comment s'appelait votre grand-mère? Ben, elle s'appelait Mathilde Wolf. Et cette dame me dit, Mathilde Wolf, ah, mais je connais. Elle a écrit des pièces de théâtre en espéranto. Et ma grand-mère, en effet, avait écrit deux pièces de théâtre en espéranto, l'une qui s'appelait Paternité, sur les bourgeois qui engrossent leurs bonnes et les laissent tomber par la suite, et un autre pièce sur les séducteurs qui s'appelait Un clou chasse l'autre. Donc voilà. Donc moi, j'ai été baigné dans le féminisme de génération en génération. Ma mère a été présidente de l'Association suisse pour le suffrage féminin à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de voter en Suisse. Et puis, j'ai baigné aussi dans une atmosphère de fluidité des genres, comme on dit aujourd'hui, parce que mon père a passé son doctorat sur un sujet qui ne serait pas nommé comme ça aujourd'hui. Son doctorat s'appelait « La castration thérapeutique ». C'est un doctorat qui a été fait à Berne et imprimé à Bâle. Et puis, en réfléchissant à ce que j'allais dire en préparant cette émission, je me suis dit « mais mon père est totalement inconnu comme personnage ayant fait ce genre de choses ». Puis je me suis dit « je vais vérifier, je mets Charles Wolf, s'il s'appelait Charles, la Chaux-de-Fonds ». Et le premier document qui apparaît sur Google, c'est un texte racontant l'histoire de la santé en Suisse romande et les problèmes de genre. Et il y a tout un chapitre qui est consacré à mon père et à ses premières expériences de ce qu'on appelait avant la guerre de 39-45 la castration thérapeutique, qu'on appelait quand j'étais enfant le changement de sexe. Et donc il a pratiqué des changements de sexe plusieurs fois, et c'est très intéressant parce que cette historienne de la santé qui s'appelle Taline Garibian, qui travaille à l'Université de Genève, fait une étude sur la manière, non pas dont on opérait les castrations, mais sur la manière dont on pouvait changer d'identité juridique et les procès qui étaient entrepris par les différentes personnes qui avaient changé de sexe. Et je me souviens que quand j'étais gosse, on avait de temps en temps la visite de personnages reconnaissants.
De patients, donc.
De patients de mon père. Et notamment, une des choses qui nous frappait, qu'on se raconte entre frères et sœurs, c'est la visite d'un couple de femmes avec enfants. Voilà, donc l'homme ayant changé de sexe, après avoir eu des enfants, étant resté avec la même femme. On les aimait beaucoup parce qu'ils nous donnaient des cadeaux, c'était des Anglais. Et pendant des années et des années, j'ai gardé un briquet que cette dame avait donné à mon père au milieu des années 50. Alors mon père a fait ça, puis à un moment donné, il a arrêté parce que un article est paru dans une revue populaire aux États-Unis et brusquement le téléphone s'est mis à sonner et il a décidé de se consacrer à son vrai métier qui était de soulager la douleur des gens de la Chaux-de-Fonds puisqu'il était chirurgien d'un hôpital et il n'avait pas du tout le goût de la célébrité.
Donc quand vous dites enfance bizarre, Laurent Wolf, bizarre, mais en fait pour vous c'était parfaitement naturel, toutes ces questions de féminisme, de changement de sexe.
Tout ça était très rigolo, oui, ouais. Oui. Il y avait aucun problème, il n'y avait absolument aucun problème. Alors ce qui est très bizarre, je le dis parce que ce qu'on vivait en famille, enfin dans cette famille, qui était une famille cultivée, ouverte, très attaché à l'idée de citoyenneté, à l'idée de rendre à la ville ce que la ville leur avait donné, hein, comme beaucoup d'immigrés le font. Parce que quand on parle d'immigration, on parle de danger aujourd'hui, mais en réalité, la plupart des immigrés, la très grande majorité des immigrés sont reconnaissants au pays qui les accueille, et la plupart, avec leurs moyens respectifs, n'ont qu'une idée en tête, c'est de rendre ce qu'on leur a donné. Et mes parents étaient habités par cette idée-là, c'était des citoyens, des militants. Mon père a milité pour la troisième semaine des vacances, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était à la fin des années 50, et les organisations patronales prétendaient que l'économie suisse allait s'effondrer si on accordait une troisième semaine de vacances aux ouvriers. Il a milité contre l'armement atomique de la Suisse. Ma mère était une militante dans les associations féministes jusqu'à la victoire, au moment où les femmes ont pu enfin voter dans ce pays. Et donc voilà, il y avait ça. Et puis il y avait cette contradiction entre une ambiance qui n'était pas du tout...
progressiste.
Très progressiste, mais plus que progressiste, avec cette histoire autour du genre, qui n'était pas du tout adaptée au monde dans lequel on vivait. Les années 50, il faut se rendre compte ce que c'était. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne se rend compte du changement qui s'est opéré à la fin des années 50, d'un changement absolument incroyable. Mais dans les années 50, on était encore au 19e siècle, et même plus, il y avait peu de lumière, les rituels étaient lourds, les gens respectaient ces rituels, il n'était pas question de faire un mariage en dehors de son groupe social, un catholique n'épousait pas une protestante, un juif n'épousait pas une catholique, les athées étaient rasés les murs, c'était pas du tout l'ambiance d'aujourd'hui. Ces choses-là, dans le monde extérieur, on n'en parlait jamais. Absolument jamais. Moi, j'ai le souvenir d'une période, d'une enfance extraordinairement heureuse, protégée, joueuse, dans un monde gris et sombre.
Et justement, le fait d'avoir des parents aussi engagés, progressistes, ont fait de vous, Laurent Wolf, quelqu'un, vous étiez un jeune garçon qui aviez envie de changer le monde, chose qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, en tout cas avec votre travail artistique, c'est pas ça que vous voulez faire. Mais est-ce que vous étiez justement un de ces jeunes hommes avides de faire bouger les lignes, comme on dit aujourd'hui?
Ben oui, j'ai fait partie. De toute façon, je pense que beaucoup de gens étaient dans cet esprit-là. C'est une période où on croyait à l'avenir, on croyait à la réalisation des utopies, on croyait quand même qu'on pouvait changer le monde. On n'était pas dans un monde désenchanté, habité par la peur du lendemain comme aujourd'hui. Les lendemains étaient lumineux. On allait détruire les inégalités, on allait gagner la bataille. L'ambiance n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Donc, il était naturel de s'engager. C'était joyeux. On défendait pas quelque chose qui était en train de se détruire. Tout était possible. Et je dirais que d'une certaine façon, il était inimaginable de ne rien faire.
En vous écoutant, Laurent Wolf, j'apprends aussi que vous êtes une fratrie. Vous n'êtes pas enfant unique.
Non, je ne suis pas enfant unique. J'ai deux sœurs et un frère. J'ai un frère qui a été diagnostiqué tardivement parce que ça, on ne savait pas le faire. IMC, infirme moteur cérébral, c'était très difficile à reconnaître, c'était très difficile à repérer. On disait que voilà, il se développait lentement, qu'il était un peu attardé. C'était un garçon qu'on aimait énormément, on lui faisait des crasses, on était cruels comme tous les enfants. Mais par exemple, avec ce frère, j'ai eu accès à la mythologie grecque parce que c'était un conteur. Il avait des problèmes pour écrire, pour se mouvoir, etc. Mais il avait une mémoire absolument photographique et donc il connaissait absolument par cœur toutes les mythologies grecques. Et je me souviens qu'enfant, on se cachait sous un édredon avec mes deux sœurs et qu'il nous racontait la mythologie grecque. Et puis j'ai deux sœurs. J'ai une sœur qui est venue habiter à Paris au début des années 60, qui a fait une école qui s'appelait l'IDEC, qui s'appelle aujourd'hui la FEMIS, qui a fait un diplôme de monteuse et de script, qui a été script du journal de l'ORTF pendant une dizaine d'années, qui a travaillé ensuite à la TSR.
Donc aussi dans l'image, comme vous,
aussi
finalement.
Dans l'image. Puis j'ai une deuxième sœur qui, elle, habite toujours à La Chaux-de-Fonds, qui a été au conseil communal de La Chaux-de-Fonds pendant 14-15 ans. Qui est très engagée dans la vie locale, qui est au POP, qui est du côté de la tradition familiale et qui pense toujours, avec un certain recul quand même, qu'on peut changer le monde. Ce qui n'est plus tout à fait mon cas, je dois avouer, parce que j'ai grandi selon l'idée de Marx, qui critiquait Ludwig Feuerbach en disant « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer ». J'y pensais ça pendant un certain temps, et puis aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux interpréter le monde. Le transformer est un risque qu'il ne faut pas prendre.
Alors, j'imagine qu'on va creuser ça dans un des épisodes suivants. Laurent Wolf, je reviens juste sur Laurent, Jules, Olivier, et puis le patronyme, vous ne nous en parlez pas, Wolf. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Lou ?
Ben écoutez, ça, c'est une chose qui est arrivée à peu près à tous les Juifs alsaciens, à tous les Juifs français d'ailleurs, après la Révolution, c'est-à-dire que les Juifs n'étaient pas citoyens, hein, ils n'avaient pas d'existence juridique, et la Révolution a permis aux Juifs de devenir des citoyens français, et donc il a fallu leur trouver un nom, parce que dans la tradition juive, il n'y a pas de nom de famille, il y a en fait des énoncés
fils de,
voilà, c'est comme dans beaucoup dans d'autres cultures. Et donc à la Révolution, ben, ça n'allait pas, c'était administrativement impossible, et donc on a distribué des noms. Donc j'ai reçu ce nom-là, enfin ma famille a reçu ce nom-là à cette époque, à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. On s'est appelé Wolf, allez savoir pourquoi. Il y a des gens qui se sont appelés par le nom de leur village, il y a d'autres gens qui se sont appelés par des noms un peu comiques, parce qu'ils avaient des dégaines. Peut-être que mes ancêtres avaient une dégaine, qu'ils avaient des grands nez avec des dents qui dépassaient.
Ils étaient poilus, peut-être.
Ils étaient peut-être très poilus, ce qui est mon cas d'ailleurs aujourd'hui. Ces noms ne signifient qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, des gens qui n'étaient pas des citoyens, des sous-êtres humains sur le plan social, sont adoptés par un État républicain qui leur donne un statut d'égalité. Voilà. Et c'est arrivé. Alors évidemment, ça se passe pas toujours très bien parce que les gens qui sont chargés de l'État civil ont parfois un humour plus ou moins bien placé. Et donc voilà, donc il y a plein de noms qui ont été distribués à cette époque-là et qu'on reconnaît à cause de ça. Parce que donc, on devient citoyen par le nom.
Laurent Wolf, on va bientôt se quitter quand on est déjà à la fin de ce premier épisode. Juste encore une dernière question avant de passer à votre choix musical. Vous vous rêviez comment ? Vous vous rêviez quoi lorsque vous étiez enfant ?
Alors écoutez, j'avais pas une marge extraordinaire pour me rêver, vu que j'étais le fils cadet de ce garçon qui était le fils aîné, malgré tout, qui correspondait pas à ce que doit être un fils aîné dans une famille bien tenue, hein, qui posait problème, voilà. Donc brusquement, je me suis trouvé usurpé cette place-là, et donc j'étais destiné finalement à répéter ou à faire fructifier la position sociale de la famille, donc à devenir chirurgien, jury, enfin avocat, architecte, toutes sortes de choses. Voilà, est-ce que je suis finalement pas devenu. Moi, je rêvais d'une vie réussie, enfin d'une vie. Moi, je rêvais de bonheur, je rêvais de rencontres, je rêvais de sexe, en tout cas, à partir de l'adolescence. Voilà, donc j'avais des rêves très ordinaires, avec un peu cette surdétermination familiale. Voilà, tu vas réussir, mon fils.
Et c'est intéressant parce que dans une de vos interviews, vous dites réussir sa vie, finalement, c'est d'être vivant. C'est de se sentir vivant. Aujourd'hui, c'est ce que vous dites.
Oui, parce que j'aime pas le mot réussir. Le mot réussir, c'est un mot purement social. J'aime beaucoup mieux le mot de bonne vie, qui est un mot qui vient des philosophes grecs. Il faut avoir une bonne vie. Alors la bonne vie, c'est quelque chose qui unit la jouissance et la morale. Voilà, c'est ça, une bonne vie. Et j'ai essayé d'avoir une bonne vie. Je rêvais d'avoir une bonne vie. Réussir m'intéressait pas beaucoup, parce que si j'avais voulu réussir, j'aurais plus. Je pense que ça va, quoi. Mais je pense que j'ai eu une bonne vie. C'est une réussite encore plus grande.
Alors, sur ces paroles qui sonnent bien, une bonne vie, on pourrait appeler d'ailleurs cette émission une bonne vie à peu près, mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. On va terminer ce premier épisode avec un ou deux choix musicaux, Laurent Wolf. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Écoutez, je serais heureux que vous passiez les variations de Diabelli de Beethoven dans une interprétation soit de Wilhelm Backhaus, qui était un grand pianiste de l'époque de mon enfance et qui est venu à la maison, qui a joué, dont mon père a entendu des concerts privés, qu'on vénérait, ou alors d'Alfred Bendel, sa première interprétation. Les variations Diabelli, c'est la rencontre de l'humour et du sérieux. C'est une musique que j'aime beaucoup à cause de ça. Et puis, c'est aussi parce que j'ai beaucoup écouté les variations Diabelli avec mes deux garçons. L'un est né en 96, il s'appelle Sébastien. L'autre est né en 1990, il s'appelle Valentin. Et j'avais constitué une espèce de bibliothèque de variations Diabelli, une 25 ou 30 interprétations. Et non seulement on écoutait ces variations Diabelli quand ils étaient tout petits, et En plus, on comparait les interprétations parce que finalement, la musique est une chose très particulière, c'est comme le théâtre. La musique, c'est non seulement l'œuvre de celui qui a fait la composition, mais c'est aussi l'interprétation. L'interprétation, c'est une œuvre sur une œuvre. C'est très important de comparer les interprétations. Chose qui n'existe pas avec la peinture. La peinture ou le dessin ou l'œuvre d'art visuel, elle est définitive. La musique, ça a quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça n'est jamais fini. Je voudrais qu'on écoute parallèlement à ça le morceau qui a fait scandale dans ma famille. Le jour où je l'ai ramené à la maison, je ne sais plus, j'étais à 11-12 ans. C'est « Rock around the clock » par Bill Haley et ses Comets. Et je dois dire que la tête de mon père, quand il a entendu ça, c'était un 45 tours avec un gros trou au milieu qu'on avait mis sur la platine. J'ai pensé qu'il allait tomber dans les pommes.
À demain, Laurent.
Au revoir. Thank you.
two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring five, six, and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start a rockin'.